Bienvenue sur le podcast de l'IPA. Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés de psychanalyse. Des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinaires d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux. Nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Julia Flora Libert. L'introduction a été lue par Julia Flora Libert. Claudio Neri est psychanalyste didacticien de la Société psychanalytique italienne. Professeur à l'Université La Sapienza de Rome et à l'Université de Turin, professeur invité aux universités Lumière Lyon 2 et Paris Descartes. Auteur de nombreux ouvrages dont L'Irbion et Le Groupe aux éditions RS. Dans cet épisode, Claudio Neri présente son article Vitalité, Vitalisme et Honte. À travers un récit riche allant du souvenir de sa rencontre avec Bion, à des études ethnopsychiatriques sur la tribu des Yatmoul en Nouvelle-Guinée, en passant par le mythe d'Anté, fils de Gaïa et Poséidon, qui montre l'importance du contact avec Gaïa la Terre, objet sûr et revitalisant, Claudio Neri soulève deux questions. Premièrement, comment distinguer la vitalité naturelle d'une pseudo-vitalité forcée, signe d'une hyperactivité névrotique ou hypomane? Et deuxièmement, quel rôle la honte joue-t-elle dans la présentation vitale et naturelle aux autres, sans l'armure des propres défenses? Si l'enthousiasme est contagieux, il est cependant possible d'observer comment certains individus peuvent parfois ne pas tolérer d'être proches d'un sujet avec une grande vitalité. L'effet de contagion qui émane d'une personne enthousiaste peut mettre en danger l'autre de perdre son équilibre. Les personnes déprimées ou dans l'hypercontrôle peuvent avoir l'impression que l'enthousiasme de l'autre active un aspect d'elles-mêmes qu'elles doivent strictement tenir à distance. Que doit finalement faire le psychanalyste lorsque la honte et les éprouvés de gêne et de peur sont si intenses qu'ils empêchent un patient d'accéder à des expériences vitalisantes ?
Aspects vitaux de la honte. Bion avait un physique vigoureux. À 80 ans, quand il n'était pas retenu par d'autres engagements, il nageait longuement tout le matin. Il a dirigé les séminaires italiens pendant plusieurs jours de suite, parlant en bâtons rompus et restant debout des heures durant. Ses discours et ses propos laissaient transparaître une grande passion. Il soutenait ses idées avec détermination et tolérait mal l'adulation et la vaine répétition. Les contacts directs que j'ai eus avec lui m'ont amené à penser que c'était un homme doté d'une grande vitalité, en large mesure d'origine génétique et constitutionnelle. Il faut dire aussi que cette vitalité qu'il avait en lui l'a développée et l'alimentait sans cesse. Pour ce faire, il avait recours à une recette originale et conjuguée des séries d'éléments différents et en partie contradictoires. La première série comprenait une grande discipline, un effort constant et la foi dans l'importance de poursuivre et promouvoir la vérité. La vérité avec une V majuscule. Les éléments de la deuxième série étaient le vif désir d'explorer des contenus affectifs et intellectuels toujours nouveaux, l'ouverture et la confiance dans le changement, ainsi que la conviction d'avoir un certain droit à la transgression. J'ai tout de suite pensé que la recette des Bion était fascinante et qu'elle paraissait très bien marcher, mais qu'elle n'était pas forcément ce qui pouvait m'être utile. Il existe de multiples manières d'être et de rester vitaux. Elles sont aussi nombreuses que les manières d'être névrosées. La vitalité et la névrose vont parfois des pairs. Mais la plupart du temps, elles ne vont pas bien ensemble. La névrose et en particulier la fausseté consomme trop d'énergie pour qu'il en reste suffisamment à disposition de la vitalité. Le mensonge a constamment besoin de s'adapter et de paraître plausible. La vérité est, par contre, plus difficile à mettre en pratique, mais elle a le grand avantage de se tenir debout toute seule. La présence et l'enthousiasme de Bion dans la discussion montraient avec évidence sa vitalité personnelle, mais les réflexions sur ce thème dans ses écrits sont rares. D'ailleurs, ce sujet n'est devenu important pour la psychanalyse que quelques ans après la mort de Bion, avec la psychologie du self et la psychanalyse relationnelle. Je ne me souviens que d'un seul passage dans ses ouvrages où il traite de ce sujet. Il se trouve dans « Recherche sur les petits groupes ». Bion illustre la situation conflictuelle de l'individu prise en étau entre les deux grandes mentalités collectives du groupe de travail, groupe rationnel, du groupe de base, groupe primitif. Lorsque l'individu adhère trop à la mentalité du groupe de travail, il se sent poursuivi par un sentiment d'aridité, de manque de vitalité. Alors il se dirige plus vers le groupe de base. Dans cette posture, il se rend compte, toutefois, qu'il perd son autonomie de pensée, qu'il ne parvient plus à avoir des sentiments personnels. Une réflexion à propos de ces passages de recherche sur les petits groupes fournit une indication importante. L'immersion de l'individu dans les couches plus primitives de la mentalité groupale, groupe de base, peut lui apporter un sentiment de vitalité accrue. Sa recherche de vitalité pour échapper à la mentalité du groupe de travail, de la responsabilité, de l'effort de collaborer avec les autres, du travail intellectuel, entraîne la perte de ses qualités plus évoluées. La vitalité issue de la mentalité du groupe de base est donc une vitalité aveugle. Les conflits entre rationalité aride et vitalité aveugle doivent être affrontés et réglés par chaque individu et chaque communauté. Les différentes communautés et cultures ont adopté des modes différents pour trouver un point d'équilibre entre ces deux pôles. Chacune de nous a pu d'ailleurs remarquer que la vitalité est étroitement liée à la culture d'appartenance. La vitalité prend des formes différentes en Argentine, en Italie ou en Suisse. Les Yatmour de Nouvelle-Guinée vivent dans des maisons très simples, ils n'ont que quelques outils, ne possède aucune capacité particulière de produire des objets ou de faire du commerce. Mais ils ont développé un système fonctionnel d'interaction sociale. Margaret Mead les a décrits comme un peuple de personnes joyeuses, responsables et fortes, constamment en train de rire ou de crier de colère. Les deux types de comportements sont plus ou moins alternatifs et paraissent leur procurer la même satisfaction. Quand un homme ou une femme sort de ses gonds, les spectateurs l'entourent et ricanent entre eux, se sentant rassurés par le fait qu'ils appartiennent à un monde où il est possible de perdre le contrôle. Les Yatmour jouissent de leur colère plus que tout autre peuple que je connais. Je terminerai cette brève présentation du concept de vitalité par deux autres observations. La première concerne la relation d'un individu doté de vitalité avec une réserve de force et de vie qui est la sienne, mais qui en même temps n'est pas entièrement sienne. La deuxième porte sur sa relation avec les personnes qui l'entourent et qui sont effectivement importantes pour lui. La réserve de force et de vie que je viens d'évoquer est une sorte de poumon auxiliaire auquel l'individu peut avoir recours quand il doit résister encore un peu dans des conditions défavorables ou quand il doit trouver des énergies après avoir affronté un traumatisme ou avoir vécu une situation de crise. Le mythe d'Anté illustre de manière efficace mon propos. Le géant Anté fils de Poséidon et de Gaïa, la terre, était pratiquement invincible, car chaque fois qu'il touchait le sol et qu'il reprenait ainsi contact avec sa mère, récupérait toute sa force. Dans la page précédente, j'ai affirmé que la vitalité a une base constitutionnelle et génétique. J'ai également soutenu qu'elle doit être alimentée par notre passion, nos efforts et notre discipline. J'ai déclaré enfin que chaque individu et chaque culture doivent trouver leur propre voie vers la vitalité, en identifiant un point d'équilibre entre aridité intellectuelle et vitalisme aveugle. Je désire à présent ajouter que la vitalité dépend aussi de la relation avec un objet, la terre, une personne, un idéal, une activité, dans lequel sont déposées la joie et la capacité de tranquilliser. Un objet qui a la vertu de nous régénérer et de nous faire transcender les problèmes et les échecs. La deuxième observation qui complète ma définition de vitalité se rapporte à la capacité d'éprouver et de faire preuve d'enthousiasme. Lorsqu'un individu parvient à s'enthousiasmer en assistant à la performance d'un athlète, en regardant une œuvre d'art ou en rencontrant un ami, non seulement il se ressource comme le géant hanté, mais il devient aussi plus lumineux. Son enthousiasme est visible. L'enthousiasme qu'il éprouve et qu'il manifeste peut être partagé et peut déterminer une sorte de contagion positive, mais il peut également susciter jalousie et contrariété chez les personnes qui l'entourent. L'individu qui s'enthousiasme et qui, pour ce faire, doit forcément laisser de côté une partie de ses défenses sociales habituelles, court le risque d'être victime de moqueries qui les ridiculisent ou de manœuvres qui viennent à les rabaisser et à les démoraliser. Ces attaques ne sont pas causées uniquement par la jalousie. Comme je l'ai dit, l'enthousiasme est contagieux. Les individus qui se trouvent à proximité d'une personne enthousiaste pourraient ne pas le tolérer. L'effet contagion qui émane d'elle risquerait de compromettre leur stabilité et leur équilibre. Les personnes déprimées ou très contrôlées et très contrôlantes, par exemple, pourraient percevoir que l'enthousiasme risque d'activer un aspect d'elle-même qu'elles doivent rigoureusement maîtriser. Une personne capable d'enthousiasme doit donc, pour le conserver, être en mesure de gérer non seulement la turbulence antérieure provoquée par cette condition, mais aussi les attaques éventuelles qui peuvent venir des autres. La présence des caractéristiques mentionnées plus haut, à savoir disposer d'une source d'énergie supplémentaire et être capable de s'enthousiasmer, permet de différencier la vitalité de la pseudo-vitalité, vitalisme, hyperactivité, névrotique, état hypomaniaque. Une autre manière de faire cette distinction est de prendre en considération l'anxiété, une anxiété souvent déversée sur les autres. Un individu peut paraître très vital à première vue, mais une observation plus attentive peut révéler qu'il n'est pas mu par la joie, mais par une anxiété sans répit. On rencontre souvent en analyse des personnes qui souffrent de ce genre de pseudo-vitalité forcée. Il arrive plus souvent encore de recevoir des demandes d'aide des patients qui mènent une triste vie sous les lourds fardeaux d'un sentiment de faible vitalité et de perte constante de l'estime de soi. La condition de se sentir peu vital a été mise en rapport avec des divers contextes dynamique et psychopathologique, dépression infantile préexistante, processus du deuil inachevé et de ses effets, persistance de la mélancolie, troubles narcissiques, identification aliénante, défense faux self. Chacune de ces approches a apporté des connaissances des instruments utiles pour faire face aux différentes facettes de cette condition. Je me concentrerai sur un aspect particulier. Des situations où cette faible vitalité est liée à la difficulté d'avoir accès à des sources de réapprovisionnement en vitalité. Une difficulté liée à son tour à un sentiment de honte accompagné de peur et d'un grand mal-être. L'apparition de la honte, de la peur et du mal-être peut être intense, au point d'empêcher une prise de contact avec des sources essentielles de réapprovisionnement de la sensation d'être vivant et vital. La sexualité, l'expression et la jouissance des affects, un rapport positif à son propre corps et aux autres. Je ne présenterai pas une histoire clinique, mais un passage tiré d'un roman d'Hilary Mantel. L'expression décrite par l'écrivain est la suivante. Le roi s'est épris de Jane Seymour, une jeune aristocrate. Jane n'est pas particulièrement belle ni brillante. Elle sait à peine lire et écrire. Elle a toutefois un caractère docile et aimable, ce qui lui vaut par la suite le surnom de Jane la paisible. Le roi commence à lui faire une cour serrée. Il est prêt à lui faire une proposition formelle de mariage, mais une difficulté imprévue surgit. Jane n'est ni flattée ni enthousiaste de la cour qui lui fait le roi et de la possibilité de l'épouser. Elle est, au contraire, terrorisée. On est à la fin du mois de mars. Madame Jane Seymour, en proie à la panique, rencontre Thomas Cromwell, le secrétaire du roi. Voilà quel est mon problème, dit Jane. Elle s'arrête et le regarde, hagarde. Peut-être pense Cromwell, c'est là tout ce qu'elle veut dire. Voilà quel est mon problème. Mais Jane continue, c'est impossible. Sa grâce, sa majesté, il est impossible d'oublier, ne serait-ce qu'un instant qu'il est, même s'il l'exige. Puis il dit, Jane, je suis votre humble soupirant. Moi, il est humble. C'est une évidence. Et je pense sans cesse. Et s'il arrête de parler et que c'est à moi de dire quelque chose, c'est comme si je marchais sur un matelas avec des aiguilles plantées dans le sens inversé. Je continue à penser. Je m'habituerai. La prochaine fois, ça ira mieux. Mais dès que le roi commence, Jane, Jane, je me sens les nerfs à fleur de peau, comme une chatte écorchée. Vous en avez déjà vu une, monsieur le secrétaire? Moi, pas. Mais je pense que s'il m'inspire une si grande peur avec si peu de temps, il va inspirer la peur, dit Cromwell. Les mots arrivent avec la vérité qu'ils contiennent. Mais Jane est trop concentrée sur son problème pour l'écouter. S'il m'inspire de la peur maintenant, qu'arrivera quand je le verrai tous les jours? Elle s'interrompt. Je le sais, monsieur le secrétaire, vous le savez, vous le voyez presque tous les jours. Mais d'après moi, ce n'est pas pareil. Le roi a le droit de vie et de mort. Jane peut seulement s'écarter et rester immobile. Pourtant, c'est Jane qui est mieux placée pour négocier une rencontre possible entre deux personnes en difficulté. Jane sait qu'elle se sent comme une chatte écorchée, et ceci lui permet de deviner les sensations qu'éprouve le roi. Jane est sans peau. Le roi, pour sa part, ne se dépouille pas d'un seul instant de sa condition de roi. Il n'enlève jamais son armure, même lorsqu'il se couche. Il ne permet pas, non plus aux autres, l'oubli. Il ne serait qu'un instant. Ce sont deux défenses opposées, mais qui essayent de combattre une même peur. laisser que quelqu'un s'approche de nous, de notre nudité concrète d'être humain, entraîne le risque ou plutôt une très grande probabilité d'être ridiculisé, cruellement blessé, voire anéanti. C'est le noyau le plus noir et amer de la honte. La honte, cependant, a également une autre nature. C'est la manifestation de la turbulence antérieure qui accompagne la plupart des expériences de contact avec des sources de vitalité et avec la vitalité même. Aussi bien Jane que les rois auraient besoin de ce deuxième type d'expérience. Ils auraient besoin d'un contact et d'une compagnie qui leur apporte la vitalité. Pour y parvenir, ils devraient toutefois être capables de construire chacun de son côté. Et aussi, autant que possible ensemble, une peau psychique, une peau capable à la fois de protéger et de mettre en contact. Il dit en yeux à parler de moi peau. Freud, dans le moi et le ça, a écrit « Le moi est avant tout un moi corporel. Le moi est finalement dérivé des sensations corporelles, principalement de celles qui ont leur source à la surface du corps. » Que devrait faire un psychanalyste lorsque la honte et la séquence de gêne et de peur sont si intenses qu'ils empêchent à un patient de s'approcher d'expériences qui peuvent les vitaliser? Je pense qu'il doit avoir recours surtout à la patience, à la tranquillité, à la capacité de créer un environnement sécurisant. En effet, lorsqu'un patient se sent trop mal, il n'arrive même pas à tolérer une force curative et une vitalité excessive de la part de l'analyste. Il se sentirait honteux et sans peau. Après beaucoup de patience et de précautions, au bout d'un temps qui peut même être très long, le moment viendra où le patient pourra porter spontanément le sentiment de honte en séance ou dans la relation avec l'analyste et ne pas se limiter à en parler. Cela arrivera presque par hasard, mais il s'agit en fait du fruit d'un long travail. Bion, employant le langage qui est lui propre, valoriserait ces moments en disant qu'à la différence des mathématiques et de l'histoire, la psychanalyse est une discipline qui a besoin de la présence de l'objet pour agir. Il est nécessaire qu'à ce moment, le psychanalyste soit capable de différencier l'apparition de la honte des déclarations rituelles précédentes d'insignifiance et de mal-être. Ces dernières témoignaient de la présence d'une estime de soi insuffisante, mais étaient aussi et en même temps une manière de s'autocritiquer et de garder l'autre à distance. Autrement dit, elle empêchait les patients de s'engager dans une relation plus étroite avec lui-même et avec l'analyste. L'apparition de ces sentiments de honte spontanée se différencie également des expériences précédentes empreintes de peur et d'angoisse. Il s'agit d'un sentiment vivant, riche en sensations et vécus corporels. Pour les patients, avoir accès à ces sentiments et les porter en séance est une conquête. Les psychanalystes devraient se limiter à partager cette expérience, sans dire ni faire quoi que ce soit qui puisse la rendre difficile à gérer pour le patient. Ce n'est que plus tard, quand la possibilité se présente, qu'il lui renverra un écho en parlant de cette manifestation de la honte en termes positifs et appréciatifs, comme d'une avancée du travail analytique. L'analyste et l'analysant pourront alors mener à terme les processus en essayant de comprendre quelles en étaient les expériences traumatiques qui lui avaient rendu si difficile de se montrer comme une personne vivante qui possède un corps, qui éprouve des sensations et des désirs et qui ressent donc également la peur, et la honte. Ils chercheront ainsi de modifier la situation du patient, qui d'une part avait besoin d'expérience de vitalité, et de l'autre devait se l'interdire et faire marche arrière.